Quel est cet escargot chamarré qui pose devant ce récif corallien ? Si j'étais un coquillage, je serais.
Et c'est une coquille assez grosse, globuleuse, qui peut faire, pareil, 10-15 cm. Extrêmement jolie, avec des côtes longitudinales, des couleurs plutôt brun, ocre, rouge, avec des motifs très détaillés aussi, c'est absolument remarquable. Et ça fait penser justement à une forme de harpe, de l'instrument de musique, donc c'est aussi pour ça qu'on les a appelés harpidés.
L'oreille posée sur la coquille de conidée, on entend non pas la mer, mais la voix émue de Nicolas Pilandre. Si j'étais un naturaliste du 21e
si
siècle, je serais.
On en découvre à l'appel. Chaque mission, c'est quasiment des dizaines de nouvelles espèces.
Nicolas Pilandre.
Chaque année, c'est des centaines de nouvelles espèces qui sont décrites à partir du matériel que l'on récolte.
Le nouveau monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui ? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste ? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce ? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Troisième escale, Love on the Beach, les conidés, un portrait en technicolore.
Position.
Récif corallien. Mer de Savu.
Latitude.
8 degrés sud.
Longitude.
119 degrés est. Dans ce troisième épisode, il est question d'une plage au soleil couchant et d'une rencontre, celle entre notre systématicien Nicolas Pilandre et l'un des groupes de prédateurs les plus diversifiés et les plus fascinants du monde vivant, les conidés. Des eaux tropicales à celles des poules, ces magnifiques coquillages aux couleurs éclatantes sont présents à toutes les profondeurs. Les plus petits spécimens font à peine quelques millimètres, tandis que la trompette australienne frôle le mètre. Ils produisent même des molécules qui guériront peut-être les maladies de nos enfants. Mais au fait, comment s'est effectuée la rencontre ?
C'est un groupe que je connaissais, mais alors pas du tout. Je n'ai pas du tout grandi au bord de la mer. Je connaissais très peu les mollusques, à la rigueur, les gastéropodes terrestres qu'on ramasse dans son jardin. Mais je connaissais très très peu les coquillages marins. Et encore moins le groupe sur lequel j'ai été amené à travailler pendant ma thèse. Donc c'était une vraie rencontre, une vraie découverte pour moi. Ouais. Moi, quand j'étais ado, j'étais passionné de papillons. Je voulais faire de l'entomologie. Quand j'ai commencé à faire mes études et que j'ai commencé à chercher une thèse, l'année où je voulais faire une thèse, il n'y avait pas de thèse en France sur les papillons, tout simplement. Donc j'ai commencé à postuler à d'autres thèses, et notamment ce sujet-là. Alors c'était une thématique qui me plaisait, je voulais faire de la systématique, ça c'était une certitude. Mais je n'ai pas fait de la systématique sur le groupe qui me passionnait depuis que j'étais tout petit. Et je me suis retrouvé à travailler sur ces mollusques. Mais c'est quasiment une règle générale en science. Tous les chercheurs que je connais, même si finalement ils ne développent pas leur recherche sur le taxon dont ils étaient amoureux quand ils étaient petits, ils ont fini par devenir amoureux de leur groupe. Donc voilà, c'est une constante, on finit par s'attacher au groupe sur lequel on travaille, on finit par très bien le connaître, donc on a envie d'en apprendre toujours plus sur ce groupe-là, et on est toujours fasciné par les gastéropodes. Alors voilà, même si ça n'a pas été mon choix au tout début, très rapidement je me suis attaché à ce groupe-là, et c'est un groupe qui est simplement fascinant par la diversité des espèces, la diversité des formes, la diversité des couleurs. Voilà, c'est vraiment fascinant.
Et si justement on faisait un petit zoom sur les conidés, sur les cônes, est-ce que vous pouvez nous en faire le portrait ?
Alors, les cônes, effectivement, c'est une famille qui s'appelle les conidés. C'est une famille qui est étudiée depuis très longtemps. Déjà parce que c'est assez facile à collecter, donc ça fait des siècles qu'on les connaît. Et on estime que le premier cône, voilà, la première espèce que l'on peut qualifier de cône est apparue il y a à peu près 55-60 millions d'années. C'est déjà une histoire évolutive relativement longue, bon, pas énormément comparé à d'autres groupes, hein. Surtout, ce qui est remarquable dans le cas des cônes, c'est que dans un temps finalement relativement court, il y a eu cette diversification extrêmement importante. Et en plus, cette diversification a eu lieu surtout dans les 20 derniers millions d'années. Et donc, effectivement, il y a une diversité de couleurs, de formes, d'ornementation sur la coquille absolument extraordinaire. En fait, ce groupe est un des deux groupes les plus collectionnés au monde de coquillages. Donc il y a une
communauté.
On dirait des bijoux, et voilà, il y a un vrai marché en fait. Hein. Il y a des gens qui s'arrachent à prix d'or des coquilles de cônes. Quand je dis à prix d'or, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour un spécimen, pour certaines espèces. Rares, de grande taille, particulière, etc.
Et on parlait de la taille, justement, les cônes, il y en a certains qui font quelques millimètres, mais il y en a qui sont très très grands, ouais. Vous disiez tout à l'heure.
Les plus gros cônes sont des cônes africains, des espèces par exemple comme Conus betulinus, qui peuvent faire 20-30 cm, avec des coquilles très robustes. Et effectivement, les plus petits qu'on a trouvés dans l'Indo-Pacifique, encore une fois, qui s'appellent Pygmaeconus, voilà, par exemple, ou Liliconus, sont des espèces qui font 2-3 mm à l'état adulte. Donc voilà, la première raison pour laquelle les cônes attirent l'attention des chercheurs, c'est cette diversité incroyable. On a actuellement un peu plus de 950 espèces décrites. C'est difficile d'estimer combien il y en aura au total, mais je pense qu'il y en a encore quelques centaines à décrire au moins.
Et on en trouve dans tous les milieux aquatiques, dans tous les milieux marins,
Les cônes ne vivent que dans la zone tropicale, subtropicale, un peu tempérée. On n'en retrouve pas du tout au pôle et dans les mers un peu plus froides. La limite nord, par exemple, c'est la mer Méditerranée, où on a effectivement un cône en mer Méditerranée, qui s'appelle Conus ventricosus, qui d'ailleurs ne serait pas qu'une seule espèce, mais potentiellement plusieurs espèces. On est en train de travailler dessus. C'est pas forcément le plus beau cône. Pour le coup, c'est une espèce qui a une coquille... plutôt grisâtre, avec des espèces de vaguelettes sur la coquille. Mais alors, ce qui est très étonnant, et là, c'est un des grands mystères des cônes, c'est que cette espèce-là, mais beaucoup d'autres espèces de cônes, ont en fait la coquille recouverte de ce qu'on appelle un périostracum, c'est-à-dire une couche organique, comme un espèce de petit tissu, complètement opaque, en général noir ou de couleur très foncée, qui va complètement cacher les motifs de la coquille. Donc ce n'est pas le cas pour toutes les espèces de cônes, mais c'est le cas pour un grand nombre, et notamment cette espèce de Méditerranée. Si vous la ramassez, en fait, elle sera totalement grise, marron, recouverte de ce qu'on appelle donc un périostracum. Et donc ça, c'est un grand mystère, parce que pourquoi est-ce que les cônes s'embêtent à créer, enfin à créer entre guillemets, hein, mais à avoir des couleurs aussi incroyables, avec des ornementations aussi incroyables, alors que pour beaucoup d'entre elles, toute leur vie, cette ornementation sera cachée par cette espèce de tissu. Donc voilà, c'est un mystère.
C'est une énigme.
On a plusieurs hypothèses pour expliquer ça, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout.
Et quelles hypothèses? Vous pouvez nous en avancer une ou deux?
Alors, une hypothèse, en fait, c'est que cette ornementation et ces couleurs n'ont aucune fonction pour l'animal. Et c'est simplement les produits de la digestion qui sont excrétés dans la coquille. Et la façon dont ils sont excrétés par le manteau de l'animal, ce qu'on appelle le manteau, font que ça crée des couleurs parce qu'ils sont excrétés de façon régulière. Par exemple, si vous excrétez quelque chose dans votre coquille une fois toutes les semaines, ben ça va faire des bandes de couleurs au fur et à mesure que la coquille grandit. Après, on sait que d'autres espèces qui ont des couleurs leur permettent de, pas forcément chez les cônes, mais d'autres mollusques, leur permettent de se camoufler. Voilà, on peut trouver d'autres hypothèses. Mais c'est vrai que chez les cônes, avec cette diversité de formes et de couleurs qui est la plupart du temps cachée, on a du mal à l'expliquer. Donc voilà, une très très grande diversité. Effectivement, la deuxième raison pour laquelle on s'intéresse aux cônes, c'est aussi parce que ce sont des organismes venimeux. Donc l'étude des cônes, du venin des cônes a commencé dans les années 70, quand on s'est rendu compte effectivement que ces espèces pouvaient être dangereuses pour l'homme. On a commencé à extraire les venins, à les disséquer, à séparer les différentes toxines et à voir un petit peu leurs effets sur des poissons, sur des souris, essayer de comprendre un petit peu sur quelle cible moléculaire ils agissaient. Et on a même donc développé un médicament à partir d'une toxine de cône, un médicament qui s'appelle le Prialt. C'est un analgésique comme la morphine, mais qui est 10 fois plus puissant que la morphine.
Donc un antidouleur.
C'est un antidouleur qui est plus puissant que la morphine, sans effet d'accoutumance, sans effet de dépendance. Le problème, c'est qu'il faut l'injecter directement dans la moelle épinière. Donc c'est quand même assez peu utilisé, c'est utilisé vraiment dans le cas des fortes douleurs chroniques. Voilà. Mais donc,
c'est extrêmement prometteur. Hein.
En fait, il y a quelques espèces, pas que chez les cônes, hein, il y a aussi chez les reptiles, quelques espèces qui ont fourni, rarement, mais qui ont quand même fourni des molécules qui sont utilisées comme médicaments. Donc ça a ouvert une porte effectivement extraordinaire. On a potentiellement des millions de toxines chez les mollusques marins. qui sont impliqués dans des maladies, effectivement, comme Alzheimer, Parkinson, les cancers, et même d'ailleurs dans le Covid, dans les symptômes du Covid. Donc il y a des recherches actuellement là-dessus.
À suivre, le nouveau monde sur les pistes du vivant, en compagnie du systématicien Nicolas Puylandre. Prochaine escale, les dents de la mer, la revanche des conidés. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.